Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Le pape François fera son retour dimanche 23 mars à la résidence Sainte-Marthe. C'est l'annonce faite samedi en fin d'après-midi par les médecins lors d'une conférence de presse donnée depuis l'hôpital Gemelli. Comme annoncé plus tôt dans la journée, le Saint-Père devrait saluer les fidèles à l'heure de l'Angélus avant de rentrer au Vatican. Malgré ce retour, François devra effectuer une longue convalescence d'au moins 2 mois, a précisé le professeur Sergio Alfieri qui dirige l'équipe médicale. Plus de détails dans la semaine du pape. L'actualité sociale et politique sur les continents africains nous conduira notamment au Soudan, au Gabon. Et après l'actualité sociopolitique africaine, nous suivrons la méditation sur les textes liturgiques du dimanche, 3e dimanche de l'année liturgique C. Nous conclurons cette édition avec Madame Huguette Yolande Epé-Boimé, présidente et fondatrice de l'association Nathanaël Epé Triso et Vie au Cameroun, qui fera une plaidoirie contre les stéréotypes dont sont victimes les personnes atteintes de la trisomie 21, dont la journée mondiale a été commémorée vendredi. De nouveau, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Fabrice Baguendé-Kéré.
Commençons donc le développement de nos titres avec la semaine du pape, Christian Losambe.
C'est la nouvelle du jour. Le pape François sort de l'hôpital et retourne au Vatican dimanche. Les médecins de la polyclinique Gemelli ont déclaré samedi que le pape va quitter cette structure médicale, vu que son état clinique est resté stable durant les 2 dernières semaines. Ils ont par ailleurs souligné la nécessité d'une période de repos en convalescence durant au moins 2 mois. Il faudra également du temps pour que le pape récupère sa voix comme avant, ce qui est pour les médecins normal dans le processus de la reprise et de la convalescence. Durant son hospitalisation, ont-il rappelé, il y a eu 2 épisodes très critiques durant lesquels la vie du Saint-Père a été en danger. Mais François n'a jamais été entubé, il est resté toujours lucide, alerte, orienté et présent. Rappelons que, avant sa sortie de la polyclinique Gemelli, le pape François va impartir sa bénédiction apostolique peu après 12 heures de Rome. Dans un message lu samedi matin aux pèlerins de l'archidiocèse de Naples et d'autres diocèses italiens venus à Saint-Pierre pour le jubilé, le Saint-Père confie avoir ressenti le soutien et la proximité des fidèles. Tout en les saluant, le pape leur a rappelé que l'unité qui les rassemble comme communauté autour de leur pasteur et de l'évêque de Rome s'exprime au travers de ce pèlerinage jubilaire, ainsi que l'engagement à embrasser l'invitation de Jésus à entrer par la porte étroite. Au terme de ce bref message, le Saint-Père a invité les pèlerins à continuer de prier pour lui. En cette année jubilaire dominée par le thème de l'espérance, la prochaine journée mondiale de prière pour les vocations, qui aura lieu le 11 mai, est placée sous le signe du don de la vie. Dans son message publié mercredi 19 mars, le pape François est revenu sur l'accueil que l'on doit réserver à la vocation, sur la manière de la discerner et sur la nécessité pour l'Église de l'accompagner. Rappelant que l'Église est vivante et féconde lorsqu'elle engendre de nouvelles vocations et que chaque vocation est un signe de l'espérance que Dieu a pour le monde et pour chacun de ses enfants, le Saint-Père a lancé donc cette invitation tout particulièrement aux jeunes, soulignant que la vocation est un don précieux que Dieu sème dans les cœurs et un appel à sortir de soi-même pour s'engager sur un chemin d'amour et de service. Dans sa catéchèse préparée pour l'audience générale du mercredi 19 mars en raison de son hospitalisation, le pape est revenu sur la rencontre entre Jésus et Nicodème, à qui le Seigneur a parlé d'une nouvelle naissance, non seulement possible mais nécessaire. Se focalisant sur ce passage raconté dans l'évangile de Jean, le pape François a invité à laisser Jésus nous rencontrer, car en lui nous trouvons l'espérance pour affronter les changements de notre vie et naître de nouveau. Et dans une lettre adressée mardi au directeur du Corriere della Sera, Luciano Fontana, en réponse à un message de proximité que celui-ci avait envoyé au pape à l'hôpital, le Saint-Père a demandé au quotidien italien de réitérer dans ses pages un appel à la paix et au désarmement. Il a également encouragé tous ceux qui consacrent leur travail et leur intelligence à informer à travers les outils de communication qui unissent désormais notre monde en temps réel.
Merci Christian. Rappelons aussi que la prière du rosaire pour le soulagement complet de François se poursuit sur la place Saint-Pierre à 19h30, présidée ce samedi par Monseigneur Giordano Piccinotti, président de l'administration du patrimoine du siège apostolique. Place à présent à l'actualité sociale et politique sur le continent africain. L'armée soudanaise a indiqué samedi avoir repris aux paramilitaires des forces de soutien rapide plusieurs bâtiments importants du centre de Khartoum, notamment la banque centrale, après avoir reconquis la veille le palais présidentiel. La bataille pour le district gouvernemental et économique de Khartoum pourrait consolider l'emprise de l'armée sur la capitale, ce qui lui donnerait un avantage significatif dans la guerre qui oppose depuis près de 2 ans les chefs de l'armée Abdel Fattah al-Burhani à son ancien adjoint et commandant des FCR Mohamed Hamdan Daglo. Plus de détails avec Augustine Passili.
Les forces armées soudanaises ont annoncé avoir repris le palais présidentiel. Ce lieu symbolique situé à Khartoum sur la rive du Nil Bleu était tombé sous le joug des paramilitaires des forces de soutien rapide dès les premiers jours du conflit en avril 2023. Ces derniers se sont longtemps imposés dans la plus grande partie de la capitale jusqu'à un renversement du bras de fer depuis septembre 2024. La perte du siège du pouvoir fait figure de désaveu pour le chef des FSR, Hemeti, qui a précisément appelé samedi dernier ses hommes à ne pas abandonner le palais. Ces soldats ont toutefois remporté une importante victoire hier, puisqu'ils ont repris la ville stratégique d'Al-Maliha. Sa proximité avec El Fasher, dernier bastion majeur de l'armée au Darfour, accroît la pression sur les forces armées soudanaises, déjà mises à rude épreuve par leurs efforts pour reprendre le contrôle de Khartoum aux mains des FSR, analyse Sudan War Monitor, un média spécialisé dans le suivi de ce conflit. Ces avancées sur le terrain accentuent encore un peu plus la division du pays, avec le nord et l'est tenus par l'armée, alors que les FSR renforcent leur mainmise sur l'ouest. En attendant, plus de 12 millions de déplacés attendent de rentrer chez eux. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
Un deuil national de 72 heures a été annoncé au Niger après le décès d'au moins 44 civils vendredi dans une nouvelle attaque djihadiste dans le sud-ouest du Niger. Vendredi, le village de Fambita, dans la commune rurale de Kokoru, a fait l'objet d'une attaque barbare par les terroristes de l'État islamique au Sahara, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur. Alors que les fidèles musulmans accomplissaient la prière du vendredi, les terroristes lourdement armés ont encerclé la mosquée pour opérer leur massacre d'une rare cruauté, a-t-il indiqué. Le bilan provisoire donné par le ministère s'établit à 44 martyrs, tous civils, et 13 blessés, dont 4 graves. Le deuil national annoncé dans tout le pays ira de samedi à lundi. L'élection présidentielle prévue le 12 avril au Gabon va se jouer entre 8 candidats, dont le général de brigade et président de la transition Brice Oligui Nguema et l'ex-premier ministre Alain-Claude Billié-Bingzé. L'annonce a été faite par le ministère de l'Intérieur vendredi. Alex Stoffen, Ibinga Ibinga, Alain Simplice Bungouere, Thierry Yvon Michel Ngoma et Zenaba Nyinga Chaning, la seule femme dans la course, avaient déposé un recours auprès de la Cour constitutionnelle et ont vu leur candidature repêchée selon un reportage de la chaîne d'État diffusé vendredi dans la soirée. La campagne électorale doit commencer ce 29 mars prochain. Crainte d'un retour de la guerre civile au Soudan du Sud, s'est alarmée l'ONU après des affrontements dans le nord-est entre l'armée loyale à Salva Kiir et une milice accusée par le pouvoir de collaborer avec Riek Machar, plaçant le pays au bord d'une rechute dans la guerre civile. Certaines ambassades ont déjà annoncé fermer provisoirement, notamment celle d'Allemagne qui dit prioriser la sécurité de son corps diplomatique. La ministre allemande des Affaires étrangères a accusé les présidents Salva Kiir et son rival et premier vice-président Riek Machar de plonger le pays dans une spirale de violence, ajoutant qu'il est de leur responsabilité de mettre fin à la violence insensée et de mettre enfin en œuvre l'accord de paix. Depuis son indépendance du Soudan en 2011, le Soudan du Sud est en proie à des violences qui l'empêchent de se remettre de la sanglante guerre civile qui a opposé les deux leaders entre 2013 et 2018. Place à présent à la méditation sur les lectures du dimanche. Aujourd'hui, troisième dimanche de l'année liturgique, c'est méditation du père jésuite Éric Goé Akwe.
Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, troisième dimanche de carême, la parole de Dieu nous invite à réfléchir sur la présence de Dieu dans nos vies, la conversion et la mission qui en découle. En méditant ces textes, nous découvrons comment Dieu agit dans notre quotidien, nous appelle à transformer nos cœurs et nous envoie pour être des artisans de paix et de justice. Dans la première lecture, Moïse rencontre Dieu dans le buisson ardent. Dieu se révèle à lui comme « Je suis Yahvé », celui qui est toujours présent, fidèle et agissant. Il voit la misère de son peuple, entend ses cris et agit pour le délivrer. Dieu n'est pas un Dieu lointain ou indifférent. De même dans nos vies, Dieu est présent, surtout dans les moments de souffrance, de conflit ou de désespoir. Il nous appelle à le reconnaître dans nos buissons ardents, ces moments où sa présence se manifeste de manière unique. Pour cela, nous devons néanmoins prendre chaque soir 10 à 15 minutes pour faire silence, prier et revoir notre journée avec lui. C'est ainsi que nous découvrons comment il nous a guidés, soutenus et ouverts à de nouveaux chemins. Peut-être avons-nous vécu une journée difficile, mais en prenant ce temps de silence, nous réalisons qu'un ami nous a soutenus, qu'une parole nous a réconfortés, ou qu'une situation s'est débloquée de manière inattendue. Ce sont là des signes de la présence de Dieu. Ce temps de prière peut devenir un rendez-vous précieux avec lui, un moment pour lui confier nos joies, nos peines, et lui demander la force de mieux vivre le lendemain. Alors pourquoi ne pas essayer dès ce soir, chers frères et sœurs? Dans l'Évangile, Jésus nous avertit, « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même », nous dit-il. La conversion est une réponse à la présence de Dieu dans nos vies. Elle n'est pas seulement un rejet du péché, mais un engagement à vivre selon la volonté de Dieu. La conversion implique une transformation intérieure qui nous pousse à agir pour la justice, la paix et la réconciliation. Reconnaître la présence de Dieu nous invite à examiner nos cœurs, à nous repentir de nos péchés et à nous tourner vers lui avec confiance. C'est un chemin de libération et de croissance spirituelle. Et comme Moïse a envoyé pour libérer son peuple, nous sommes appelés à une mission. La conversion nous pousse à agir dans nos familles, nos communautés et notre monde. Nous devons être des instruments de la miséricorde de Dieu. Dans nos familles, par exemple, les conflits et les divisions peuvent causer de grandes souffrances. Prenons l'initiative de pardonner et de rétablir des relations brisées. Dans nos communautés, que ce soit dans nos paroisses, nos quartiers ou nos lieux de travail, soyons des artisans de paix en encourageant le dialogue et la solidarité, en participant à la mission de Dieu pour un monde plus juste et plus uni. Dans le monde, face aux violences et aux conflits qui déchirent tant de régions comme au Soudan, au Congo, au Sahel, en Palestine, en Ukraine ou ailleurs, nous ne pouvons rester indifférents. Surtout pour les chrétiens qui ont des responsabilités civiles ou politiques. La parabole du figuier nous rappelle que Dieu est patient, mais qu'il attend de nous des fruits. Nous avons du temps pour agir, mais ce temps est limité. Ne le gaspillons pas. Frères et sœurs, les lectures de ce dimanche nous montrent un chemin clair. Reconnaissons la présence de Dieu dans nos vies. Convertissons-nous pour répondre à son amour. Engageons-nous en mission pour être des artisans de paix et de justice. Dieu, qui se révèle à Moïse comme je suis, est présent dans nos vies. Il voit nos souffrances, entend nos cris et nous envoie pour transformer le monde. Répondons à son appel avec courage et foi. Que l'Esprit Saint nous guide et nous fortifie dans cette mission. Amen.
Le 21 mars, le monde a célébré la journée mondiale de la trisomie 21 ou syndrome de Down, pathologie liée à une anomalie chromosomique à l'origine du retard de croissance sur les plans physique, cognitif, affectif et psychomoteur. Au Cameroun, une semaine commémorative a été observée pour cette journée et des activités ont eu lieu à Yaoundé, organisées par l'association Nathanaël Épée Triso et Vie. Pour Madame Huguette Yolande Épée-Boimé, présidente de cette association, la Journée mondiale de trisomie 21 est un jour de commémoration, de plaidoirie, de témoignage et de soutien. À cet effet, elle invite les communautés en Afrique à briser les stéréotypes dont sont victimes les personnes atteintes de cette pathologie afin de leur accorder plus de place dans la société et les aider à se découvrir ainsi que leurs propres capacités.
Pour moi, la journée mondiale de la trisomie, ce n'est pas un jour de célébration, mais un jour de commémoration, un jour de plaidoirie, un jour de témoignage, un jour de soutien. C'est un jour où nous devons amener les gens à changer les mentalités. Nous devons pousser les gens à voir la vie autrement, mais surtout d'apprécier les œuvres de Dieu, parce que oui, un enfant porteur de trisomie est un enfant qui vient de Dieu. Malheureusement, en Afrique, on considère toujours la trisomie comme étant une malédiction. Les enfants et les familles sont taxés de tous les noms. Nos activités visent alors à promouvoir l'inclusion, mais surtout à lever le tabou sur cette anomalie.
Que doit-on faire davantage pour se débarrasser des mythes et des stéréotypes qui entourent les personnes trisomiques?
Pour pouvoir éloigner les mythes autour de nous, nous devons déjà, parents, ne plus cacher les enfants. Nous devons participer aux activités de façon ouverte. Nous devons faire connaître nos réalités à la société. Parce que oui, comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a pas connaissance d'une situation sache comment faire pour pouvoir vous accompagner?
Et comment peut-on aider les personnes vivant avec le syndrome de Down à se découvrir et à découvrir leurs propres capacités pour qu'elles soient à même d'apprendre et d'exercer des métiers?
Pour aider un enfant qui est porteur de trisomie, déjà aimer cet enfant. Ne faites pas les choses pour cet enfant, mais faites les choses avec cet enfant, avec cette personne, parce qu'il ne s'agit pas que des enfants, on a également des adultes qui sont porteurs de trisomie 21. Nous devons les encourager dans les initiatives qu'ils portent. Par exemple, moi, mon fils, il a les matins où je propose une tenue, il me dit qu'il veut plutôt porter celle-là. Je laisse et je respecte son choix parce qu'il a la capacité de décider pourquoi est-ce que je vais lui ôter la décision également de pouvoir se faire plaisir.
Et quel conseil donneriez-vous aux États africains pour mettre fin à la stigmatisation des personnes trisomiques et faire de sorte que nos sociétés soient plus inclusives? Et aussi, qu'est-ce que les familles elles-mêmes peuvent faire dans ce sens?
Alors, je donnerais comme conseil à l'État africain de travailler main dans la main avec les organisations telles que la nôtre, de pouvoir écouter, parce que oui, ce que beaucoup ont appris à l'école en tant que spécialistes n'ont rien à voir avec les réalités sociales. Et il n'y a qu'un acteur social pour vous faire mieux comprendre et trouver des meilleures résolutions pour pallier à tous les maux liés à la trisomie. Je demande également aux acteurs et aux États africains de donner la possibilité dans les entreprises aux personnes à besoins spéciaux, aux personnes porteuses de trisomie, de pouvoir se mouvoir. Ne les regardons plus comme des personnes nécessiteuses, mais plutôt comme des personnes qui ont besoin d'être intégrées, des personnes qui méritent d'être intégrées, et on verra la différence. Chez nous, à Triso et Vie, on dit il n'y a aucun concours pour le choix de sa progéniture, et on dit également ma différence, ma force. Je vous remercie.
Vous venez donc de suivre Madame Huguette Yolande Épée-Boimé, présidente fondatrice de l'association Nathanaël Épée-Triso et Vie. Elle était interrogée par Paul Valéry Mendogo.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme Français-Afrique de Radio Vatican, Fabrice Baguenekere qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi.
Africa.